cette, encore une fois, belle journée. Et comme vous le savez, on poursuit notre série, notre étude sur « Face aux géants ». Et dans les semaines dernières, on a eu l'occasion d'en voir quelques-uns. Et moi, on m'a confié le mandat de, plus particulièrement, vous parler d'un géant assez particulier, auquel on peut avoir à faire face, et on va avoir à faire face dans notre vie, c'est de détruire le découragement. Lorsque j'ai partagé à la maison que j'étais pour prêcher sur le découragement, la dépression et tout ça, Suzanne, elle m'a dit quelque chose. Puis elle me l'a rappelé ce matin. Elle dit, tu sais, Benoît, elle dit, essaye de faire ça quand même dynamique, joyeux. Mais là, parler du découragement dynamique, joyeux. Et savez-vous une pensée qui m'est venue à l'esprit? Dans les années 60, il y avait, fin des années 60 quand même, là, pas le début, là, parce que je n'étais pas là, là, mais vers la fin des années 60, oui, j'étais là au début, en tout cas, là, c'est fait. Je me comprends. Dans les années 60, il y avait un groupe qui s'appelait les Belles Cantos. Et ils chantaient une chanson, puis les gens, ça dansait, là, quand ils chantaient. Puis, savez-vous, c'est quoi qu'ils chantaient? « Découragé, je suis au désespoir. Tu es fâché, tu ne veux plus me voir. » Et là, ça partait, puis là, tout le monde dansait là-dessus. Mais là, ça n'a pas de sens. « Découragé, je suis au désespoir, puis on danse là-dessus. » Bon, donc, à ce matin, je vais quand même essayer d'être équilibré. Attendez-vous pas à ce que ça va être là, tu sais, parce que quand même, c'est un sujet très sérieux qui est celui du découragement. Et bien entendu, mon objectif, moi, ce n'est pas de faire une étude approfondie sur toutes les formes de découragement, la déprime, la dépression, le burn-out et ainsi de suite, parce que ça prendrait plusieurs heures pour le faire, et je ne suis surtout pas un spécialiste dans la matière. Mais mon objectif, c'est qu'on puisse voir qu'à travers la parole de Dieu quand même, Dieu n'est pas insensible à ce qu'on peut vivre comme découragement, et surtout qu'il y a de l'espoir pour ceux qui en souffrent. Et je tiens à faire une mise en garde aussi que plusieurs ont faite avant moi. Vous savez, lorsqu'on parle de sujets comme ça, on est conscient qu'il peut y avoir différentes raisons qui nous amènent dans des états de découragement, de dépression, et ainsi de suite. Okay? Il peut y avoir des causes qui sont tant physiques, psychologiques et même chimiques. Ça va aussi loin que ça. Mais mon approche à moi ce matin est la suivante. Ce que j'aimerais, si ça peut fonctionner, parce que là, ça ne fonctionne pas présentement. Ah, là, voilà. Donc, c'est par là qu'il faut que je dirige. OK? Surveillez-vous en arrière. C'est que j'y vais peut-être un peu plus comme sous la forme d'un escalier. Pourquoi? Parce qu'il y a une pente dans un escalier. Et dépendamment où vous êtes situé, votre niveau de découragement va être différent. Si vous êtes vraiment dans le haut de l'escalier, tout peut baigner dans l'huile, on pourrait dire. Si vous descendez, ça peut aller moins bien. Et si vous êtes dans le bas de l'escalier, vraiment, dans le bas de la pente, disons-le, là, c'est vraiment dramatique comme situation. Et si je vous demande si ça vous arrive d'être découragé, la plupart vont dire oui. Et il peut y avoir toutes sortes de raisons pour être découragé. Ça peut être parce que nos enfants, de par leur attitude, nous découragent. Ça peut être parce que les enfants sont découragés à cause de l'attitude de leurs parents. Ça peut être parce qu'on a des gros problèmes de maladie. Ça peut être aussi bien parce qu'on a des gros problèmes au niveau du travail, des problèmes dans le couple. Ça peut être aussi, puis là, je ne veux pas, on pourrait faire une prédication juste là-dessus, parce que comme ouvrier ou comme responsable, tu es découragé de voir des fois l'attitude de des personnes. Tu dis que ça n'avance pas, et ainsi de suite. Donc, des motifs, des causes, il peut y en avoir une foule. Mais c'est pour ça que sur l'acétate que vous avez là, on peut voir qu'il y a quand même différents niveaux en tant que tel. Et en regardant dans le Larousse, le mot « découragement », j'ai vu que ça disait que c'était une perte de courage, d'énergie, d'abattement, de lassitude. Et là, j'ai cliqué sur des synonymes. Il y en a tellement de synonymes que j'ai trouvé ça décourageant. Donc, j'ai dit, je vais arrêter ça là. Mais quand même, en fouillant un peu, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Et ça provient de l'Institut, Si ça, je vois que ça ne va pas, je te ferai signe, OK, Guillaume, ça va? Donc, c'est l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal qui donne une définition à la dépression qui est la suivante. C'est un état de tristesse ou d'absence de plaisir qui persiste dans le temps et qui peut avoir des conséquences graves sur les pensées d'une personne dépressive, son comportement, son humeur et sa santé. J'ai trouvé ça très bien parce que, dépendamment du niveau dans lequel tu es, ça va avoir des conséquences de plus en plus importantes. Et ça, ça va avoir des impacts, bien entendu, parce que quand on est très découragé, ça a des impacts. Et le même institut nous précise que d'ici 2020, c'est quelque chose, c'est pas loin 2020, la dépression sera la deuxième raison d'invalidité au monde pour les personnes âgées de 15 à 44 ans. Quelque chose, d'ici 2020, la deuxième raison. Et tout ça, ça a des coûts, bien entendu. Parce que quand tu es un employeur, tu as des gens qui sont déprimés, ça n'a pas le même résultat, vous comprenez? Et on nous dit qu'au Canada seulement, les entreprises, ça leur coûte près de 16 milliards de dollars annuellement. Donc, on voit quand même que c'est comme si avec le temps, les gens deviennent de plus en plus découragés, pour toutes sortes de raisons. Okay? Maintenant, on peut se dire, ouais, mais qui peut vraiment être atteint par cela? Guillaume? Bien, Guillaume, je ne sais pas, je ne dis pas que tu es atteint de ça, là, mais vous comprenez, là, OK? Correct, Guillaume, tu restes mon chum, OK? Vous avez un homme ici qui s'appelle Edwin Aldrin. Ça a été un des premiers astronautes en 1969 qui a marché sur la Lune. Cet homme-là, quand même, c'est tout un scientifique, vous comprendrez. Et par la suite, il a vécu de très, très profondes périodes de dépression. Un deuxième, un homme d'État avec son fameux cigare. Comment il s'appelle? Churchill, exactement. Lui, pareil, ça a été incroyable ce qu'il a pu vivre dans ses mémoires et ainsi de suite. On raconte à quel point il y avait des périodes de grande lassitude. Et un troisième, le prince des prédicateurs. Le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon. Le prince des prédicateurs qui vivait des périodes très, très difficiles comme ça, c'est incroyable. Et si on regarde dans la parole de Dieu, on voit que des hommes comme Moïse, David, Job, Jérémie, et j'en passe, ont vécu eux autres aussi des périodes très, très fortes en termes de découragement. Donc, si tous ces hommes-là, même avec leur capacité, leur intelligence, leur connaissance, ont pu vivre de périodes de dépressives, la question qui peut se poser, c'est pourquoi pas moi? Pourquoi ça ne pourrait pas m'arriver? Et ce matin, Guillaume, on va regarder un personnage auquel on ne peut pas vraiment passer à côté. Parce que ce personnage-là, qui est Élie, le prophète, on va voir lui dans une partie de sa vie, on va faire un survol d'une partie de sa vie pendant laquelle vraiment il a vécu des expériences les plus exaltantes qui l'ont conduit, on pourrait dire d'une certaine façon imagée et même quasiment littérale, au sommet de la montagne, mais que par la suite, il a planté, il est allé au creux. Vraiment, de la vallée. Reviens en arrière, s'il te plaît, Guillaume. Au sommet de la montagne, vous savez, si on lisait les chapitres 17, 18 et même un peu 16, pour regarder un peu l'histoire d'Élie, le prophète, cet homme-là a eu des responsabilités incroyables en tant que prophète. Depuis plusieurs années en Israël, il y avait un roi, qui est le roi Achab, qui avait institué quasiment comme religion d'État les cultes à Baal. Et c'était des cultes vraiment qui amenaient des gestes immoraux, des gestes cruels. Et Élie, dans un premier temps, s'est fait confier la mission d'aller voir Achab puis de le reprendre. Et non seulement de le reprendre, mais de l'avertir aussi qu'il était pour avoir une période de sécheresse. Imaginez le courage que ça prenait pour faire ça, aller confronter un homme comme Achab pour l'avertir de cela. Et donc, mais c'est toute une expérience qu'Élie a pu vivre, bien entendu. Mais par la suite, voilà qu'Élie quitte, il s'en va vers un torrent, vers un ruisseau. Et près de ce ruisseau-là, il vit quelque chose d'incroyable. Moi, là, ça a toujours été mon rêve. Être nourri par des corbeaux. J'aurais peut-être choisi un autre oiseau, je ne vous cacherai pas. Mais il buvait de l'eau du torrent et le corbeau lui amenait de la nourriture. Expérience merveilleuse, incroyable. Et lorsque le torrent va s'assécher, Élie va se déplacer, il va arriver chez une veuve. Une veuve qui ne reste plus rien pour manger. Il reste un petit peu de farine, un petit peu d'huile. Mais Élie va prendre soin de cette veuve-là, avec l'aide de Dieu, pour qu'elle ne manque pas d'huile, ne manque pas de farine. Quelque chose, ça aussi, comme expérience. Pensez à ça, là. Et suite à ça, il va devoir aller sur le Mont Carmel. Pas Mont Carmel, mais sur le Mont Carmel, en Israël. Et là, il va confronter directement les prophètes de Baal. 450 prophètes de Baal, puis 400, je pense, aussi de Astarté, si je me souviens bien. Il va aller les confronter pour démontrer c'est qui le vrai Dieu. Et là, ils vont faire un autel sur lequel chacun des deux groupes, Élie est tout seul, puis la gang de prophètes sont là, puis ils vont invoquer chacun leur Dieu pour voir lequel qui est vrai. Parce qu'on va mettre des taureaux, on va mettre une offrande là-dessus, puis on va voir lequel ça va marcher en invoquant Dieu. Les prophètes s'installent, font des manœuvres incroyables, ils crient, ils se lacèrent, il n'y a rien qu'ils ne font pas, puis finalement, il ne se passe rien. Et lorsqu'arrive le tour d'Élie, qui invoque vraiment l'Éternel, l'offrande est consumée, l'eau, puis les roches en sautent. Quelque chose. Imaginez l'exaltation qu'Élie a dû avoir à ce moment-là. C'est vraiment impressionnant. Et il avertit en plus Achab que la pluie va revenir. Mais voilà que Achab s'en retourne vers Jisréel et Élie aussi. Et voilà tout à coup que, pour une raison qu'on va voir un peu plus loin, Élie se ramasse au creux de la vallée. Guillaume? Il est au chapitre 19, parce que ça va être principalement notre chapitre pour ce matin, au verset 4. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Le même homme, dans un délai, la Bible ne nous le dit pas, mais quand même très court, vit des expériences aussi exaltantes et tout à coup va s'installer en dessous d'un arbrisseau d'un arbre pour demander la mort. C'est quelque chose, ça, là. Et quelle pouvait bien être la raison de ça? Bien, on a sa prochaine diapositive. La raison de son découragement, une femme en colère. Pensez-y comme il faut, là. Messieurs, avez-vous déjà rencontré une femme en colère? Ne levez pas la main, s'il vous plaît. Avez-vous déjà rencontré une femme en colère? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut dire? C'est quelque chose. Mais ici, Jézabel, l'épouse du roi, et cette femme en colère. Et on attribue une citation soit à Shakespeare ou à Groucho Marx, si je me souviens bien, c'est pas clair ça vraiment, une citation qui dit ceci: « L'enfer ne contient pas plus de furie qu'une femme dédaignée. » Ça veut dire « Attelle-toi, mon homme. » Quand une femme se choque, ça peut être quelque chose. Et voilà que Jézabel est l'épouse du roi. Elle en pique toute une colère. Et elle va, Guillaume, elle va dire ceci. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, en parlant des prophètes de Baal qui ont été mis à mort. » Ça, c'est toute une douche froide pour Élie. Mais ça devrait être quoi sa réaction après tout ce qui a passé avant? Est-ce qu'il aurait dû combattre? Est-ce qu'il aurait dû encaisser le coup? Est-ce qu'il aurait dû dire à Jézabel, « Calme-toi, madame! » Non! Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fuite! Il prend la fuite parce que le verset 3 nous dit, « Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba. » La suivante, s'il te plaît, Guillaume. Là, j'ai essayé de... Puis j'ai pas de pointeur, parce que normalement, j'ai un pointeur sur le petit bidule. J'ai pris une carte de la NASA et j'ai essayé d'écrire là, sur la carte, là. J'espère que j'avais le droit de faire ça, mais en tout cas, ça, oui, ça doit être fourni. J'ai essayé de vous mettre... Hé, mes amis, c'est loin. Oui, un peu plus haut. À gauche, Jisréel, là, sur le bord de la mer. Oui, ça, c'est le mont. Merci. Donc, c'est là que ça s'est passé, tous les événements. Et où est-ce que Élie se retourne? C'est un peu en bas du Z de Jisréel. OK? Il est là lorsqu'il se fait menacer par... Merci, vous suivez bien. Et là, il va partir, puis il va descendre tout le long. Non, pas là, ben non, t'es bien trop des montagnes, reste plus bas. Il va longer tout le bord comme ça, et il va s'en venir jusqu'à Beersheba, qui est à peu près ici. Et il va le faire, il va partir d'un territoire qui est quand même très beau, qui a des arbres, qui a de la végétation. Et tout le long, vous voyez les changements de couleur, il s'en va vers quoi? Le désert. Et par la suite, il va continuer même plus loin que ça. Il va se taper un 150 km comme ça, où là, rendu vraiment au bout, il va crier. Et vous savez, ce matin, on a parlé de canicule, on a parlé de chaleur, mais dans ces endroits-là, laissez-moi vous dire aussi que c'est très, très, très chaud. J'ai même regardé une photo aérienne de Google Earth, excusez l'anglais, à Beersheba actuelle. Tu as genre la petite ville qui est là, qui est toute beau, mais à côté de ça, là, c'est du désert. Ben voilà qu'Élie, lui, pour fuir, s'est tapé toute cette distance-là. Et la question qu'on peut se poser, ben, c'est qu'est-ce qui est arrivé à Élie vraiment pour qu'il en vienne à ça? Et quelle leçon vraiment on peut tirer de ça? Parce que Élie, la parole nous dit, s'il te plaît, Guillaume, qu'Élie était un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. Je vous avouerai que dans la parole vivante, c'est sûr que là, le mot expérience, les mêmes, tout à fait, là, moi je n'ai pas eu ce qu'il y a eu quand même. On est d'accord? Mais vous comprenez que dans sa nature humaine aussi, Élie, dans tous ses combats, dans tout ce qu'il a pu vivre, ben, il était comme vous et il était comme moi. Comme moi, on est susceptible de pouvoir vivre ces périodes-là de découragement. Et il y a deux grands dangers. Le premier danger, c'est de se croire trop fort pour en être atteint. À moi, là, ça n'arrivera pas, parce que moi, je suis quelqu'un. Ça ne m'arrivera pas, moi, je suis fort. Ça va couler sur moi comme si rien n'était, les épreuves, il n'y a pas de problème. Ou encore, le deuxième danger, c'est de se croire trop faible pour en sortir. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va regarder un peu justement comment il a pu s'en sortir. Et il y a quand même des facteurs qui sont prédisposants, Guillaume, au découragement. Et là, vous allez remarquer une chose tout au long de ce petit message-là, vous allez voir dans les facteurs, dans les symptômes, dans les remèdes, il y a comme trois volets là, en tant que tel, c'est-à-dire physique, émotionnel et spirituel. OK? Puis d'autres vont dire corps, âme et esprit. C'est complet, ça. Mais vous allez voir. Donc, dans les facteurs prédisposants, dans ce qui concerne Élie, il y en a quand même, il peut y en avoir plusieurs, il y en a trois que j'ai fait ressortir surtout. Le premier, c'est le surmenage. Même si Élie a eu beaucoup de victoires, pensez un instant ce que ça a dû lui faire comme émotion, comment physiquement ça a pu le rejoindre, de faire face à Achab, de répondre aux besoins d'une veuve, d'aller confronter les prophètes vraiment de Baal. Faire une longue marche comme ça dans le désert, ça a dû avoir un impact vraiment très, très, très fort. Et là, le surmenage, dans son cas, certainement que ça a pu avoir joué. Ça, déjà, il y a une leçon pour vous et moi. En 2018, ça peut-tu nous arriver qu'on soit surmené? Est-ce que cette leçon-là qu'on ne doit pas tirer dans un premier temps, c'est qu'on a besoin de faire attention et de connaître nos limites? Parce que nous ne sommes pas des surhommes ou des surfemmes. Je ne sais pas si ça se dit, là, mais en tout cas, comprenez? Des superwomen, oui, merci. Donc, ben c'est ça, surfemme. Donc, ça, c'est important de le réaliser parce qu'on vit maintenant de plus en plus dans un siècle de performance. Que ce soit au travail ou ailleurs, il faut toujours être occupé. Donc, on peut facilement en venir à être atteint par un surmenage. Donc, il faut vraiment faire attention à ça comme facteur prédisposant. Un deuxième maintenant, la solitude. Au verset 3 du chapitre 19, il est dit ceci, « Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, il laissa son serviteur. Élie a abandonné son compagnon de voyage. » Plus il s'en va, plus il s'isole, plus il est découragé. Plus il est découragé, plus il s'isole. C'est comme un cercle vraiment vicieux en tant que tel. Et ça, là encore, là aussi, la solitude, lorsque on est dans la pente, vous vous souvenez, je reviens souvent à cette pente-là, dépendamment où on est, on peut avoir de plus en plus tendance à rechercher cette solitude-là. Et face à vraiment à l'adversité, c'est dangereux de s'isoler, de se replier vraiment sur soi-même et de se priver de tout entourage humain. Vous savez, l'Ecclésiaste, au chapitre 4, verset 9, il dit ceci, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, qu'est-ce qui arrive? L'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans en avoir un second pour le relever. C'est une exhortation que Dieu nous donne dans sa parole que la solitude, c'est dangereux. Donc oui, il y a eu le surmenage comme facteur prédisposant à la solitude, mais il y en a un troisième qui est le sentiment d'injustice. Il faut que tu cliques une autre fois, j'ai eu un petit problème, Guillaume. Exactement, le sentiment d'injustice. Au verset 4, il va dire « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme. » Élie a été obéissant et c'est comme si, à quelque part, malgré toute son obéissance, il arrive des choses que lui ne voudrait pas voir. C'est pas juste ça. Comment ça se fait que cette Jézabel-là, elle me parle de même, elle? Comment ça se fait, Seigneur, que je fais ci, je fais ça, et regarde ce qui arrive? Le sentiment d'injustice, c'est quelque chose qui, dépendamment de qui vous êtes, de ce que vous vivez, moi le premier, combien de fois je peux dire, des fois, il me semble à Dieu, je ne le dis pas ouvertement, mais je le pense, je le confesse après, il me semble que ce n'est pas juste, Seigneur, ce qui arrive là. Pour telle et telle raison, il me semble que ça aurait été ça qui aurait dû arriver. Comment ça se fait que tu permets ça, Seigneur? Que ça arrive de cette manière-là. Ou si je regarde les autres, bien là, c'est encore pire. Là, si je me mets à comparer, hey, on sait que lui, elle, c'est pas juste. Voyez-vous, quand ces facteurs-là qui s'additionnent en plus, bien graduellement, tu vas sombrer vraiment de plus en plus. Et tu vas en venir à avoir un peu comme un ras-le-bol, t'en as dit, toi aussi, tu as envie de dire un peu comme Élie, c'est assez. Et lorsqu'on en arrive à ça, bien, il y a des symptômes qui vont apparaître. Des symptômes physiques, émotionnels, et en ce qui concerne les chrétiens, des symptômes spirituels aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Ce matin, si on en parle, c'est parce qu'on veut en parler aussi entre chrétiens de ce sujet-là. Donc, le premier symptôme qui est facile à reconnaître, bien entendu, c'est l'épuisement. Vous remarquerez à quel point vraiment il est fatigué, il est vidé, il a même plus envie de manger. Tout ce qu'il a envie de faire, c'est de dormir. C'est juste ça. Bien, quand vous rencontrez une personne qui est vraiment déprimée, c'est un des symptômes que vous allez voir souvent, à quel point cette personne-là se lever, s'habiller, c'est toutes des choses qui exigent énormément d'énergie et ils n'en ont plus d'énergie. Un deuxième symptôme maintenant, le manque d'objectivité. C'est quoi un manque d'objectivité? C'est une vision déformée de la réalité. Au verset 4, Élie va dire « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Voyons donc, Élie, qu'est-ce que tu as fait? Tu as accompli ce que Dieu te demandait? C'est quoi cette vision-là que tu as là, par rapport à toi, par rapport à tes pères? Au verset 10 et au verset 14, « Je suis resté moi seul ». Voyons, il n'était pas tout seul, Dieu le dit. Il y en a d'autres qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais pour Élie, là, tout ce qui se passe là, c'est vraiment là, un manque d'objectivité et je suis resté moi seul. Il n'y en a pas d'autres. Je suis le seul à vivre ça. Puis au verset 14, il va dire « Les Israélites cherchent à m'ôter la vie ». Ce n'est pas les Israélites qui veulent t'enlever la vie, c'est Jézabel. Voyez-vous, dans la vision d'Élie, ce qui se passe, tout ça est déformé, vraiment. Il manque vraiment d'objectivité. Et lorsqu'on est découragé, lorsque je suis découragé, chacun des obstacles que je rencontre, pour moi, ce n'est pas une petite colline ou un buton, c'est quoi? Une montagne. Parce que je manque d'objectivité. Épictète, qui est un grand philosophe, a dit ceci, il dit « Les hommes sont agités non par les événements, mais par leur perception des événements. » Voyez-vous la différence? Et ça, dans d'autres prédications antérieures, ça a été soulevé aussi, la façon qu'on perçoit des choses, qu'on appréhende ces choses-là, comment on réagit, souvent on le fait en fonction de nos perceptions et non même pas de la réalité. Donc, c'est un manque d'objectivité qui nous caractérise lorsqu'on est de plus en plus découragé. Et un troisième symptôme, l'apitoiement. Ça, c'est délicat de parler de ça. Parce qu'Élie va à plusieurs reprises dire, il va dire, « Je ne suis pas meilleur, j'ai déployé mon zèle, je suis resté moi seul, je. » Là, tout tourne autour de ce qui m'arrive. Le « moi » prend une importance vraiment. Et l'apitoiement, ce qu'il fait dans le cas d'Élie, puis ce qu'il va faire dans tout le cas des personnes qui en viennent à avoir ce sentiment-là, de découragement-là, c'est que cet apitoiement-là vient nous envoûter. Il vient même à déformer nos pensées, puis il tord notre vision de nous-mêmes, des autres, des événements, et même de Dieu, on va le voir un peu plus loin. Donc, l'apitoiement, c'est une caractéristique qui est là. Et je vais dire quelque chose avec beaucoup de réserve. Parce que je sais que pour lorsque, en tout cas, tout à l'heure, s'il me reste un peu de temps, on va aller un peu plus loin là-dessus, c'est quelque chose d'assez important, mais quelqu'un a dit à un moment donné, l'apitoiement est le pire ennemi de toute croissance spirituelle. Il faut. Puis là, je ne veux pas juger, okay? Parce que je sais que lorsqu'on est vraiment dans le fond de la cave, là, il y a des symptômes, il y a des choses qui sont... C'est normal qu'on les voit, ces choses-là. Mais voyez-vous que graduellement, l'apitoiement, le danger que ça peut avoir, c'est que ça va nous empêcher même aussi de grandir. Et un quatrième symptôme, pour les gens qui appartiennent au Seigneur, c'est la perte de vue de la personne de Dieu. Les regards d'Élie ont arrêté de se porter sur Dieu à partir du moment où on regardait ce que Jézabel lui a dit. Tout son regard était porté sur les circonstances. Il dit même au verset 3, « Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. » En entendant ça, en voyant le message qu'il a reçu de Jézabel, il a arrêté de regarder vers Dieu. Et ça nous montre aussi qu'en portant nos regards sur les circonstances uniquement, on perd de vue qui vraiment est Dieu et l'amour qu'il y a pour chacun d'entre nous. Puis on peut même en venir à déformer le caractère de Dieu en pensant qu'il ne nous aime plus et même qu'il nous a abandonnés. Sévère, hein? Rencontrer des personnes qui ont vécu des profondes périodes de découragement, puis des chrétiens, puis ils vont vous le dire. Ils en viennent à avoir cette vision-là que Dieu même les a abandonnés en tant que tels. Mais heureusement, il y a des remèdes au découragement. Et encore là, ces remèdes-là vont encore toucher le domaine physique, émotionnel et spirituel. Mais il y a différentes responsabilités en lien avec les remèdes. La première, c'est ma responsabilité à moi. Bien entendu, la première chose que moi, je devrais faire lorsque je me retrouve dans une situation comme ça, c'est prendre soin de ma santé. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que Dieu nous a donné des besoins qui sont aussi légitimes, humains, terrestres. Au verset 5 et au verset 7, à deux reprises, il dit, « L'ange toucha Élie, le toucha et dit, « Lève-toi, mange. » Il était couché, il voulait juste dormir. L'ange lui dit, « Lève-toi et mange. » Et il se fait servir quoi? Un gâteau. Bon, un gâteau, dans ce temps-là, ce n'est pas le gâteau qu'on mange nous autres aujourd'hui, mais imaginez le chef cuisinier qu'Élie a eu. C'est quelque chose, ça, là. À deux reprises. Il mange, fatigué pareil, il se rendort. Il va se réveiller plus tard. « Lève-toi, mange à nouveau. » Donc, voyez-vous, il arrive un moment donné où il faut être capable aussi de prendre un temps pour soi, un temps pour se ressourcer, que ce soit physiquement en faisant des activités, ou que ce soit aussi en se reposant, bien entendu. Martin Luther, qui est un grand théologien du 16e siècle et qui a traduit la Bible en allemand, dit « Repose-toi, on sert Dieu aussi par le repos. » Quelque chose, hein? Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Et là, je prends 30 secondes, une minute. « Reposez-vous un peu. » Moi, là, cette semaine, j'ai entendu je ne sais pas combien de nouvelles à la radio qui disaient là, les problèmes qu'on a de plus en plus. Avec quoi? L'écran, les notifications. Là, il y a des gens que la nuit, je ne veux pas les juger, il y en a peut-être ici, mais la nuit, leur cellulaire, leur téléphone intelligent, est pas loin parce qu'ils reçoivent des notifications comme quoi il y a un message sur Facebook ou comme quoi il y a un courriel qui vient de rentrer. Ils vont se réveiller pour voir c'est quoi. Et j'irai même plus loin, je connais des personnes qui vont aller à la salle de bain pour être polies avec leur téléphone. Faites ce que vous voulez, ça vous regarde. Ce que je veux juste dire, c'est quand on a besoin de se reposer, parce que ce sont toutes des choses qui nous alimentent l'esprit continuellement, puis ça fait tourner, puis ça fait tourner. Peut-être que c'est bon aussi d'être capable de se reposer et même de ne rien faire. Pas facile, ça, là, là. Okay? Donc, c'est juste une petite suggestion en attendant. Faisons attention à ça. Le deuxième, discipliner mes pensées. Ça, là, vous savez, Élie, là, dans tout ce pèlerinage-là, pas pèlerinage, mais dans toute sa démarche qu'il a faite, là, imaginez un peu le nombre de fois qu'il a pu penser au message de Jézabel. Et donc, on voit qu'il y a un lien vraiment qui est évident dans le domaine aussi de la pensée. Et là, qu'est-ce qui risque d'arriver avec nos pensées, Guillaume? Je rumine. Connaissez-vous ça, ruminer? C'est tout le temps être absorbé par ces pensées-là, ces pensées-là, ces pensées-là. Comme un hamster qui n'avance pas, mais il tourne. Il court sur place tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, lorsque des fois je m'installe, Suzanne a tendance à me regarder et est capable de dire à quel moment je suis en train de ruminer. Mais elle ne me dit pas, Benoît, tu rumines, et pire que ça, elle me dit, supure, supure, rouille, rouille. Tu sais, supure comme du pu, là. Ah ouais, cultive-le, là, cultive-le. Supure, supure. Mais c'est vrai, moi, j'ai tendance énormément à ruminer quand c'est des affaires qui me tracassent et tout ça. Je dois beau traiter ça de toutes les manières. Bien, c'est dangereux. Et comme on dit souvent, si le mécanisme menant au découragement est souvent relié aux pensées, bien, le combat, il doit donc commencer à ce niveau-là aussi. Et ça, c'est important de discipliner, la suivante, s'il te plaît, Guillaume, de discipliner vraiment nos pensées. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais qui est nécessaire. Proverbe 23:10 dans la version d'Arby va dire, « Comme il a pensé dans son âme, tel il est. » Comme il a, je le répète, comme il a pensé dans son âme, tel il est. Donc, ça nous montre que l'homme est façonné vraiment par ce qui domine ses pensées. D'où l'importance de pouvoir les changer, ces pensées-là, les remplacer. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La reconnaissance, quel bon moyen de pouvoir. Et ça, c'est ma responsabilité. Est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. C'est certain. J'ai lu, et cette semaine, j'ai fouillé ça un petit peu plus, l'histoire un peu d'un pasteur qui s'appelle Ronald Dunn, qui est décédé en 2001. C'est un pasteur qui a lutté pendant des années contre une profonde dépression suite au suicide de son fils. Okay? Pour vous faire une histoire très courte, parce que c'est vraiment, en 1975, il revient de voyage avec son épouse, et quand il rentre dans la maison, il y a une note de son fils qui lui dit, papa et maman, je vous aime, mais je suis plus capable de vivre dans ce monde-ci. Dans la salle de bain, appelez le 911. Okay. Donc, son fils s'est suicidé. Et lui, pendant des années, il y a eu non seulement des combats, mais des chutes. Mais il luttait, il luttait, il luttait, et il dit ceci. Il dit, « Je prends la décision délibérée de tourner mes pensées dans une autre direction, vers le chemin de la louange et de l'action de grâce. » Écoutez bien la fin. « Parfois, j'y arrive, et parfois, j'échoue. » Et parfois, j'échoue. Mais ce qui compte, c'est de persévérer. Et ça, c'est vraiment ma responsabilité en tant que telle. Et la troisième, maintenant, c'est de m'approcher de Dieu. Vous savez, Élie s'est en allé plus loin au mont Horeb, au mont Sinaï, là, c'est la même chose, à l'endroit même où Dieu s'est révélé à Moïse, où les commandements ont été donnés, et ainsi de suite. C'est comme si Dieu avait permis que c'est à cet endroit-là qu'il puisse reprendre contact vraiment avec Dieu. Et pour nous, c'est important, même si c'est difficile, de pouvoir vraiment rechercher à continuer à se rapprocher à nouveau. Parce que oui, on peut s'éloigner de Dieu, on pense s'éloigner, mais c'est important dans la façon, c'est d'y revenir vraiment subséquemment. Et ça, c'est vraiment ma responsabilité. Mais il y a une deuxième responsabilité que j'ai appelée la part de Dieu. Ça, c'était ma part, la première. Moi, ce qu'il faut que je fasse en tant que tel. Mais il y a une part que Dieu fait aussi au travers de tout cela. Vous savez, dans la plupart des cas de dépression comme ça, souvent les gens pensent que Dieu ne se soucie plus d'eux. Ils ont même de la misère à lire un texte, tellement que ça devient difficile. Okay? Puis ils peuvent venir, comme je disais tout à l'heure, même à douter de l'amour de Dieu. Mais il faut se rappeler que son amour, c'est la suivante, Guillaume, c'est son amour est inconditionnel. Son amour de Dieu ne dépend pas ou n'est pas influencé par vos victoires ou vos échecs. Tenez bien ça. Dieu n'est pas, son amour n'est pas du tout influencé par ces périodes-là que vous avez eues, soit sur le dessus de la montagne ou dans la vallée. Son amour, à lui, là, il est inconditionnel. Et même dans les moments les plus décourageants, Dieu n'est pas là pour vous faire des reproches. Vous savez ce qui est arrivé à Élie? Il s'est en allé dans une caverne au Mont Horeb. Il est allé là. Et Dieu est tellement plein de sollicitude qu'il n'a pas commencé à y taper sa tête. « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas d'affaires là? Je t'ai jamais envoyé là, patati patata. » Non. Il va s'adresser à lui à deux reprises par une simple question qu'on va voir sur l'acétate. C'est « Que fais-tu ici, Élie? » Et ils vont inviter Élie à sortir de cette caverne-là pour contempler Dieu vraiment. « Que fais-tu ici? » Dieu sait très bien. C'est une question, mais je ne me souviens pas le mot qu'on dit, là, pas rhétorique en tout cas. Comprenez, Dieu sait très bien qu'est-ce qui se passe. Mais il ne lui adresse même pas de reproche. Il dit « T'es découragé, Élie? » T'es rendu ici, t'es rendu vraiment là. Maintenant, qu'est-ce que tu fais ici? Sors de là, j'ai à te parler. Et lorsqu'il va parler à Élie, il va lui parler à partir d'un murmure doux et léger en tant que tel. Moi, calme-toi, Élie. Et Dieu, c'est dans ces temps de silence-là qu'il va être capable de murmurer. Il n'y a pas besoin du tonnerre et des éclairs. Dieu contrôle les événements, il contrôle les éléments, il n'y a rien besoin de tout ça. Mais Dieu, lorsqu'il veut s'adresser à Élie, il s'adresse dans un murmure doux et léger. Et lorsque vous êtes aux prises avec le découragement, Dieu, ce qu'il veut faire, c'est aussi s'adresser à vous de cette manière-là. Mais dans la part de Dieu aussi, il y a l'assurance de sa présence. Le suivant, s'il te plaît, Guillaume. C'est ça. Donc, Ésaïe 54, 10 dit ceci. Il dit, « Quand les montagnes, c'est un beau chant, là, j'ai oublié complètement, tellement un beau chant, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Ça, c'est une vérité que Dieu nous dit, que quel que soit ce qui va arriver, Dieu nous assure vraiment de ça. Présence. Mais il nous assure aussi de nous soutenir par sa parole. C'est une autre part de Dieu. Vraiment, c'est important de même si c'est difficile, de persévérer vraiment dans la lecture. Vous n'êtes pas capable de lire, vous êtes trop déprimé, demandez à quelqu'un de vous lire. Et finalement, la dernière, c'est la promesse. J'ai marqué la promesse du retour, mais je devrais quasiment dire la promesse de la présence et du retour. Ce matin, on a citez le verset au pas du Seigneur. « Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais quoi? Prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Un frère nous disait souvent quand il parlait qu'il y avait des épreuves, c'est temporaire. Un jour, oui, ça va arrêter de toute façon. Mais en plus, le Seigneur, il va revenir. C'est une promesse vraiment. Donc, la promesse de son retour devrait être là pour nous encourager aussi à persévérer vraiment en tant que tel. Puis il y a une troisième part, il y a ma part à moi, la part de Dieu, mais il y en a une troisième qui est très importante, c'est la part de la famille. Vous savez, dans la parole de Dieu, l'Église est comparée à un corps vivant dans lequel les membres ils doivent être solidaires, pas solitaires, solidaires. Et c'est une responsabilité qu'on a, c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité ou un devoir qu'on a de prendre soin les uns des autres. Vous savez, il y a un proverbe au Burkina Faso qui dit ceci, « Un seul doigt ne peut prendre un caillou. » Moi, je vais ajouter, à moins qu'il y ait de la colle au bout, là, mais ça n'a pas rapport. Là, okay? Un seul doigt ne peut prendre un caillou. C'est vrai. Mais quand on est dans le découragement, la dépression, et ainsi de suite, on a besoin aussi d'avoir des gens qui sont là pour nous. Et comment, à ce moment-là, on peut accomplir ça? Bien, premièrement, en étant sensible aux besoins des autres, Guillaume. En étant sensible vraiment aux besoins des autres. Job 6, 14, il dit, « Celui qui souffre a droit à la bienveillance d'un ami. » En étant sensible aux besoins des autres. Ensuite, en écoutant plutôt qu'en parlant. Ça, c'est pas facile. Quelqu'un a dit, « Si aimer Dieu, c'est écouter sa parole. Aimer son prochain, c'est savoir l'écouter. » Et ça, c'est pas facile, parce qu'on a tellement tendance à y aller de nos conseils. « Tu devras ça, as-tu lu ci, as-tu lu ça? » « Brasse-toi, tiens, t'as qu'à y être, un peu. » Donc, vraiment, en écoutant plutôt qu'en parlant. Et une chose que seuls les chrétiens peuvent faire, c'est la suivante, c'est en priant pour les autres. Lorsque Paul s'adresse aux Colossiens, il veut nous démontrer à quel point on doit être sensible vraiment à la souffrance des autres. Il va dire aux Colossiens, « Épaphras ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. » Épaphras ne cesse de combattre pour qui? Pour vous. Voyez-vous? La solidarité. Et lorsque des personnes passent par des temps difficiles, on devrait, comme famille, être capable d'être là vraiment pour prier pour ces personnes-là et même par la suite, être capable de les consoler aussi. C'est important. Maintenant, quand on veut consoler les personnes, c'est sûr qu'il faut faire attention parce qu'on peut vouloir manier la parole de toutes sortes de manières. Mais la consolation que Dieu nous donne lui-même, il nous la donne pour qu'on puisse la faire envers les autres. Et c'est pour ça que souvent, c'est les personnes qui ont été les victimes elles-mêmes de ces grands, plus grands moments-là de découragement qui ont pu aider vraiment les autres. Et Élie, qu'est-ce qui lui arrive par la suite? Il y a le rétablissement d'Élie. Et dans le rétablissement d'Élie, Dieu va lui dire, va, prends ton chemin. Il va vraiment l'encourager en tant que tel à continuer. Il va même lui dire qu'il va y avoir un autre roi qui va remplacer Achab. Il va lui dire aussi qu'un autre prophète va lui succéder et ainsi de suite. Et Élie a eu une fin heureuse, dont la parole nous parle dans l'Ancien Testament, mais aussi même dans le Nouveau Testament. Il me resterait, est-ce que vous me donnez 4 minutes? Je vais le calculer. J'ai choisi, j'en ai parlé avec Suzanne, je vais essayer de le faire calmement. J'entends pas pleurer, pas calmement. Vous savez, après notre mariage, Suzanne et moi, ça a pris 8 ans avant que Gabriel vienne au monde. 8 ans. Et pendant ce temps-là, on a eu des périodes de découragement en tant que tel, mais vous savez, c'est, regarde, tu dis, tu continues, puis au pire, on ira à l'adoption. 8 ans. Donc, à un moment donné, lorsque Suzanne est tombée enceinte et qu'on a eu notre enfant, on a failli l'appeler Désiré. non, c'est une farce. On l'a appelé Gabriel, OK? Mais imaginez l'exaltation qu'on avait. On était au sommet de la montagne. À peu près un mois après, on est tombé dans le creux de la vallée. Je dirais d'une expression un peu du jour au lendemain, Suzanne est tombée dans une très profonde dépression. Très profonde. Et à cette époque-là, écoutez, là, ça fait 27 ans de ça, là, on ne parlait pas de ces sujets-là de santé mentale trop, surtout pas dans les milieux chrétiens. Et moi, je me disais, hey, un instant, là, les gens qui nous recommandaient d'aller voir au moins le médecin, ils ne connaissent pas, ces gens-là, la puissance de Dieu. Et je m'étais dit, bon, on va aller passer quelques jours au chalet, hein, dans le bois, mes amis. Je n'ai même pas passé une journée, je suis sorti de là. C'était terrible. Mais pourquoi je vous partage ça? C'est que dans ces moments-là, on a dû recourir aussi à de l'aide. Je me souviens d'avoir été dans une boîte téléphonique, puis d'appeler un frère, puis dire, « Prie pour moi, parce que là, je ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Là, Suzanne est en train de virer folle. Ça n'a plus de sens. Écoute, on vient d'avoir un bébé, qu'est-ce qui nous arrive? » Donc, j'ai eu besoin de recourir à des gens qui ont aidé. On a eu besoin de consulter un médecin. C'est un médecin qui a dit à Suzanne que ce qu'elle faisait, c'est une dépression très profonde, un changement hormonal, chimique, mettez tout ça, là. Et là, elle avait besoin d'être traitée en tant que telle. Et pendant toute la longue période que ça a duré, parce que ça a été quand même assez long, elle a fait en plus un AVC, une thrombose cérébrale. Ça ne nous a pas aidés. Et je me souviens, à l'époque, lorsque des fois, la nuit, on ne dormait pas, elle me disait, « Benoît, dis-moi quelque chose pour m'encourager. » Je n'étais pas capable. Je ne savais pas quoi dire. Vous comprenez? J'étais découragé, pas au même niveau qu'elle dans l'échelle, dans la pente, mais je l'étais aussi. Et graduellement, comme ça, on a dû aller chercher de l'aide. Des fois, dans ma famille, qui venait pour ne pas la laisser toute seule, parce que moi, je devais aller travailler, c'était trop dangereux de la laisser seule. Jean Lépine est venu combien de fois reconduire son épouse Liliane à Québec pour qu'elle passe une semaine avec elle, parce que moi, je m'en allais. Voyez-vous, aller voir le CLSC pour avoir de l'aide dans la maison, pour faire à manger, faire un peu de lavage, toutes ces choses-là. Pourquoi je partage ça? C'est parce que vous la connaissez, puis vous me connaissez. Il y a de l'espoir. Voyez-vous, il y a de l'espoir. Et lorsqu'il ne faut pas se gêner, lorsqu'on est rendu à une étape, il ne faut pas se gêner pour recourir puis aller avoir de l'aide. Et il y a de l'espoir, ça en est sorti. on s'en est sorti, on est capable de continuer à glorifier Dieu pareil dans tout ce qu'il nous confie. Et je vous ai dit tout à l'heure, ne vous fiez pas sur vous-même pour voir comment Dieu vous apprécie. Parce que là, vous allez vous comparer aux autres. Pourquoi que lui est capable de faire ci, il est capable de faire ça? Dieu s'occupe de tout ça. Il va vous confier ce qu'il a à vous confier, puis vous pouvez vous fier sur lui que même si vous passez par des temps très difficiles, il est toujours là, je vous le dis, il est toujours là. Et que le Seigneur puisse, au travers de ça, nous donner la force de lever les yeux vers le ciel, de continuer à espérer en lui, en ses promesses, et qu'il puisse nous donner comme famille aussi, de pouvoir vraiment prendre soin les uns des autres. Prions. Seigneur, notre Dieu, on veut juste te remercier pour ce bel exemple que tu nous donnes d'Élie dans ta parole. Tant d'autres aussi, Seigneur, qui ont été jusqu'à demander la mort même, tellement ils étaient découragés. Mais Seigneur, on veut te remercier de ce que tu continues de prendre soin de tes enfants. Et ce matin, on veut vraiment bénir ton nom. Et je veux te prier, Seigneur. Oui, on veut te prier comme assemblée, comme famille aussi, pour tous ces frères et sœurs qui passent par des temps plus difficiles. Tu les connais intimement, Seigneur.